Petite annonce avant de commencer l'épisode de la French Connection. Et cette petite annonce-là, vous pourrez se retrouver sur plusieurs épisodes. Je commence par m'excuser du délai de production des différents épisodes. J'ai été très sollicité au niveau professionnel. J'ai été très chanceux d'un côté, mais en même temps, ça enlève un peu de temps ailleurs. Donc, ça a ralenti la capacité de produire des épisodes. La deuxième, c'est qu'on a eu rencontré des problèmes de qualité avec notre fournisseur de visioconférence qui nous permet de justement enregistrer toute la gang ensemble. Donc, la qualité est un peu moindre. Je vais focusser sur le fait de rapidité de production au lieu de la qualité. Donc, les prochains épisodes vont être un peu moindres ou la qualité sera moins intéressante. Et ça amène sur la question de la qualité générale des épisodes. Je ne me suis pas questionné sur le workflow de production depuis les derniers mois, voire même les dernières années, au sens où je n'ai pas réadapté par rapport au changement de méthode de production qu'on avait. Donc, les effets qu'on a ne sont peut-être pas tout à fait intéressants et peut-être pas à la hauteur non plus. Donc, je profite de ce moment-là aussi pour réévaluer mon workflow de production au niveau audio pour l'améliorer, pour remettre la qualité, puis peut-être un peu enlever certains artefacts qui peuvent être agressants. Donc, bon épisode et souhaitant que cela vous ne dérange pas trop. Bienvenue à la French Con épisode 155. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut!
Sacrifie son après-midi pour ne pas être dans la piscine, puisqu'il fait quand même assez chaud au moment où on enregistre. Et c'est cela.
Ah, ça va être
après. Nesberg... Oui?
Oh, ça va être après la piscine. Faites-moi confiance.
Shameless plug, COVID-19, s'il vous plaît, même si on a déconfiné, lavez-vous les mains, masque, distanciation sociale. Les courbes sont déjà en train de réaugmenter, fait que ça serait un peu moche qu'on retombe dans une nouvelle phase de confinement, qu'on perde tout le beau qu'on a gagné à travers ça. Fait que respectez les règles, s'il vous plaît. Commençons immédiatement dans les nouvelles. Une nouvelle. C'est moi qui vais commencer au niveau de ce qui se passe à Hong Kong à l'heure actuelle et les effets de bord que ça pourrait avoir. Une des choses, la nouvelle loi que la Chine a promulguée au niveau de Hong Kong donnerait la capacité au gouvernement chinois de faire des arrestations, mettre des mandats à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la Chine et à l'extérieur du Hong Kong. Ce qui fait que tous les ressortissants mondiaux qui pourraient parler contre la Chine. À ce moment-là, viendrait à être mis sous arrêt en Chine. Et à ce moment-là, la Chine pourrait demander une extradition avec tous ses partenaires qui ont des lois d'extradition, des ententes d'extradition avec Hong Kong, qu'elle pourrait utiliser pour l'œuvre juste. Beaucoup, beaucoup de situations problématiques, ce qui fait que probablement que je ne devrais pas me promener dans un pays où il y a encore des traités d'extradition avec Hong Kong. Pas que je parle ouvertement contre la Chine, mais je suis vraiment quand même un peu critique face à comment l'État chinois, le pays traite ses citoyens, il traite l'information au niveau mondial et nous espionne un peu comme à travers Zoom, entre autres, pour reprendre un peu les nouvelles récentes. Donc, ces éléments-là. En ce sens-là, je suis soulagé que le Canada ait suspendu temporairement son traité d'extradition avec Hong Kong. Mais c'est à voir comment les choses vont se passer un peu à travers le monde. Puis ça enlève un peu notre liberté d'expression au niveau du régime chinois qui a des bons et des moins bons, des moins bonnes par rapport à ce genre de choses. C'est très concentré, fait qu'on va passer à sa première nouvelle.
Non, mais écoute, je vais être prudent moi aussi quand je vais parler de la Chine là, à travers les différents enregistrements. Là. Je trouve ça un peu très arrogant de leur part, là, ce type de loi-là qui est concentré là-bas, mais qui leur permettrait d'allonger le bras où ils veulent dans l'univers connu. Là, c'est un petit peu... Mais en tout cas, ils doivent avoir leurs raisons. Là. Hein? Chaque loi, ses bonnes et ses mauvaises raisons, là, mais en tes cas, très arrogant.
Pas dans un contexte où la portée est internationale, elle vient contraindre les libertés des gens qui vivent, qui ont des présomptions, comme pas des pays occidentaux, dans lesquels on a une certaine liberté d'expression. C'est un peu contraignant qu'un pays tiers vienne
contraignent cette liberté d'expression-là que pour des considérations internes à leur propre façon de gérer les choses. Puis dans certaines critiques que j'ai vues, il faisait allusion à 1984, le livre de Orwell, dans lequel on entre vraiment dans une rhétorique de contrôle extrême de tout ce qu'on fait et que la télé peut nous regarder. Passons à une autre nouvelle qui est peut-être un peu plus intéressante à voir. Puis moi, je ne pourrais pas vraiment me prononcer énormément sur cette nouvelle-là, mais l'identité numérique pour chaque Québécois.
Oui, bien écoutez, le 17 juin dernier, là, puis éventuellement, aux nouvelles de la semaine passée et de cette semaine, je crois, le gouvernement veut devenir le gardien des données confidentielles de ses concitoyens, nous, cher peuple québécois. Je pense que c'est une belle idée, un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Mon opinion est très favorable justement à élargir justement le débat sur un moyen de que chaque citoyen québécois ait son identité numérique de façon centralisée. C'est peut-être pas la meilleure méthode parce que ça fait par défaut, il s'agit d'un single point of failure si jamais ça devait crasher, etc., etc. Mais bon, je pense que l'idée, elle est noble. On est bombardé de programmes, de produits, de services, codes d'utilisateurs pour l'ARC, un pour l'ARQ, un pour accéder, un pour BMO, un pour Hydro-Québec, pour Bell, pour TELUS, pour ci, pour ça, de vouloir justement créer une identité unique avec un portail unique vers ces services-là pour chaque citoyen dans son propre dossier. Je pense que l'idée est très noble. Le projet, il y a déjà deux étapes de démarrer. Il y a beaucoup d'argent là, qui ont déjà été déployés. Cette année notamment, plusieurs millions de dollars pour faire une prise de conscience, une réflexion, quelle devrait être la direction que ce projet-là devrait prendre. C'est quoi la cible? À quoi ça devrait ressembler au final pour déterminer tous les bons objectifs puis faire évoluer ce projet-là, que ce soit un projet porteur également. Monsieur Kerr exprimait qu'il voulait se donner environ 5 ans pour la réalisation d'un tel projet. Ça va prendre... Moi, si Monsieur Kerr nous écoute, tant mieux. Là, ce type de projet-là va demander beaucoup d'adhésion. Ça veut dire on va avoir besoin d'une belle campagne de séduction par des belles personnes à télévision, qui, en conférence de presse, qui parlent bien, qui paraissent bien, qui s'expriment bien et qui vulgarisent bien, parce que je pense qu'il y a du bon, du très bon là, qui peut ressortir d'un tel projet. Puis ça peut créer un précédent, puis c'est pas un précédent négatif, c'est un précédent positif à l'utilisation des meilleurs mécanismes pour sécuriser nos authentifications sur des sites où on consomme nos données personnelles et confidentielles. Puis ça vient, le gouvernement, par contre, s'alourdit d'une très grosse responsabilité à ce moment-là, en possédant toutes ces informations-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un fail by design au niveau de la conception. C'est sûr que va falloir que l'endroit où ces données-là sont conservées soit blindé. L'utilisation de ces données-là, l'entretien, la maintenance. N'oublions pas que on est en mesure d'entretenir ces infrastructures-là. On donne des accès à hauts privilèges à certains employés. On pense que ces employés-là doivent avoir accès à tout. Il y a des moyens et des mécanismes qui leur permettent justement de segmenter. Puis, je pense qu'il y a des beaux défis avec ce projet-là, mais c'est très réalisable.
C'est effectivement un très beau projet, très, très louable en termes d'objectifs. La seule chose, parce que je l'ai déjà écrit publiquement, j'espère qu'ils vont réussir à faire vivre le rêve et qu'on va arriver avec quelque chose au bout de ce rêve-là. Au même titre que la société québécoise a été capable de le faire sur plusieurs volets, entre autres, on a des très grandes réalisations, certaines très novatrices, en espérant que celle-ci en soit une de celles-ci, un grand projet qui va mener à quelque chose, l'arrivée du Québec vraiment au 21e siècle numérique. J'ai même devancé beaucoup de pays occidentaux dans lesquels on n'ont peut-être pas tout à fait encore le même degré d'intégration de ce genre de choses-là. Et souhaitons, comme tu le mentionnes, que les gardiens de cette identité-là au niveau gouvernemental soient aussi prudents que nécessaire pour protéger toutes nos identités, sachant qu'on vit dans un monde actuellement où notre seule identité numérique-ish est protégée par un NAS qui est déjà disponible largement dans le dark web et que les malveillants utilisent allègrement. Et comme Damien nous répète régulièrement à quel point ils échangent nos identités comme des cartes à jouer quand nous étions adolescents. Des cartes de hockey, plus précisément.
Bon, fait que bonne chance, M. Carr. C'est un beau projet.
Oui, très beau projet.
Puis vous connaissez nos adresses, M. Kerr. Si vous voulez des conseils, ne vous gênez pas. Soyez très libéral au niveau des conseils que tous les partis peuvent vous donner.
Oui, c'est très important qu'on ait un projet avec un très grand degré d'acceptabilité. Donc, justement, qu'on fasse consensus à travers la société québécoise et qu'on ait quelque chose qui en sorte de très bien. Et qu'on s'en soit fier au bout du compte. Passons à la nouvelle suivante. Dans ce cas-ci, on va parler de Google. Google qui conserve toutes nos informations. Google qui fait de l'argent sur nos informations d'ailleurs. Donc, dans ce cas-ci, on a annoncé dernièrement qu'ils mettaient l'option d'effacement automatique de nos informations après un délai défini dans nos paramètres. Tous les nouveaux comptes ont ça par défaut. Les comptes plus anciens devront configurer cet effacement-là des dites informations que Google a sur notre compte. Ils font un très beau texte qui explique un peu l'étendue de ce que c'est. Il faut quand même considérer que Google fait de l'argent sur la revente de nos informations, principalement. C'est son modèle d'affaires. Donc, oui. Au niveau de la conservation, puis ça rejoint souvent ce que je dis, surtout dans des cas de DIP, ne conservez jamais l'information plus longtemps que vous en avez besoin parce que les malveillants vont être tentés de venir la voler. Quand vous en avez besoin, vous l'effacez. Par contre, dans le cas de Google, j'ai bien l'impression que le plus nécessaire, c'est qu'ils l'ont transformé dans d'autres produits qui, à ce moment-là, vont leur servir quand même à monétiser nos informations, mais d'une autre façon, peut-être moins grave par rapport à ce genre de choses-là. Fait que je demeure quand même sceptique par rapport aux volontés de vie privée de Google. Puis j'ai l'impression que c'est une réponse assez forte à ce que Apple a annoncé au WWDC, dans lequel il mettait au cœur même de son fonctionnement la vie privée des gens, dans lequel on va probablement faire un épisode spécial justement sur ce sujet-là, dans lequel on va creuser et peut-être mettre à mal les informations perdues par Apple, parce que c'est sûr que marketingment parlant, c'est très beau. Je ne suis pas convaincu que dans la réalité des choses, c'est la même chose, même exactement comme ce que Google est en train de faire.
Ça, si tu précises davantage, là, est-ce que les données dont tu parles, est-ce que c'est, par exemple, nos données de déplacement? Tiens, si on a décidé d'activer l'enregistrement de nos données de déplacement, on pourrait dire... Au lieu de manuellement l'effacer une fois de temps en temps, on pourrait activer à tous les X temps, les données de localisation vont être supprimées. C'est un des exemples de données, ça? Tout comme les données...
Ils ne sont pas précis dans la portée des données qui sont effacées, par exemple. Mais ils disent que, par défaut, c'est à 36 mois, donc aux 3 ans, les données sont purgées de leur système. Puis ils parlent un peu... l'historique dans YouTube, et ainsi de suite. Oui, mais est-ce que le fin détail, ça, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas creusé d'ailleurs aussi. Là. Puis, là, je fais un meilleur culpa aussi en même temps. Là, j'ai vécu sur une roche depuis le dernier mois. Fait que j'ai dû récupérer rapidement des nouvelles qui étaient intéressantes à la dernière minute pour l'enregistrement du podcast. Je n'ai pas eu le temps de les creuser, mais comme tout est tracking, vie privée, tout ça, comme le fait qu'on va potentiellement faire un épisode justement pour analyser les dires de Apple sur ce qu'ils ont annoncé dernièrement. Comme Google a répondu à ça, on va probablement creuser au même niveau que ça, et voir pas juste leur petit mention publicitaire et où on est gentil, on est comme Apple, on est gentil, nous aussi, on protège vos informations.
Bon, à suivre.
Ouais, j'aime ton petit sourire. Puis en même temps, il parlait aussi de differential privacy, c'est-à-dire que c'est qu'ils vont maintenir quand même l'information, mais pas au complet. Puis ça, ça avait été amené comme réflexion par Apple il y a quelques années. Fait qu'il disait qu'il anonymisait nos informations, mais jusqu'à quel point ces informations sont vraiment anonymisées. Il y a beaucoup de débats au niveau des défenseurs de la vie privée, à savoir est-ce que c'est ou ce n'est pas vraiment ce qu'on peut faire, jusqu'à quel point, comment on est capable de reconstruire un profil. Là.
Ah, c'est grand géant de la GAFA, hein? Du GAFAM, pardon.
Ouais, maintenant, c'est ça, sont plus gros. Il y en a beaucoup.
Ouais.
Passons à une de tes nouvelles, parce que si ça a soulevé les passions, c'est un peu dommage que s'ils ne soient pas que nous autres, parce que justement, ça se parle de Huawei, dans lequel le TELUS aurait racheté des équipements à l'insu d'Ottawa.
Ben, je vais faire mon meilleur culpa aussi, là. C'est juste une annonce en surface que j'ai récupérée, là. J'aurais aimé ça, effectivement, que les autres soient présents, là. Je pense qu'on aurait ébranlé certaines colonnes du temple, là. Les colonnes du temple de Steve, notamment. Mais bon. Il paraît que TELUS aurait acheté puis intégré de l'équipement de Huawei à ses infrastructures à l'insu d'Ottawa. Donc, présentement, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il n'était pas bien, bien fier, justement, de cette petite nouvelle-là qui est sortie. J'ai aucune espèce d'idée si c'est sorti par un lanceur d'alerte ou quoi que ce soit. Mais oui, TELUS. Puis je peux même pas vous dire exactement sur quelles infrastructures cet équipement-là a été installé. Cependant, il y a les conseillers de notre gouvernement canadien sont pratiquement convaincus là, qu'il y a des données. Que ce soit des données, des conversations, peu importe, tout ce qui passe par un fil, ont déjà été transmis vers la Chine grâce à ces équipements-là. Alors, malheureusement, je l'ai ici, attendez un peu, c'est 70 taux cellulaires, entre autres, qui utilisent l'équipement Huawei, entre autres sur son réseau sans fil, dont 13 à Gatineau. On ne parle même pas de 5G ici, on parle du
Gatineau, en plus. Là, il y a quasiment complot. Là. Si ça avait été genre au Nunavut, j'aurais pas fait de cas. Mais que Huawei installe des équipements Huawei autour de Ottawa.
Ouais, c'est pour ça que là, le CRS est en train peut-être d'analyser un petit peu la situation et d'être en mode panique. Je les comprends, là. Je les comprends. 13 tours, là. Il y a du trafic qui passe par là, là. Puis on parle de 13 tours sur, entre autres, les 70, où de l'équipement Huawei a été décelé. Est-ce qu'il y en a sur d'autres types d'infrastructures, dans des centres de données? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Là, on parle de tours cellulaires, qui est déjà un très, très gros vecteur de consommation de données dans l'univers connu, disons-le comme ça. Là. Surtout avec les 2-3 dernières années où Huawei est en mode séduction, qui a malheureusement un petit peu aussi causé sa perte dans les 2-3 dernières années pour créer une méfiance, justement, là, dans nos cœurs et notre esprit. Puis là, on trouve cet équipement-là qui est installé, comme tu dis, autour du siège social canadien. Ça fait un petit peu, ça fait très étrange, effectivement. Il y a des questions à se poser, là.
Oui, puis ça revient un peu aussi tout ce qu'avait détecté, je pense que c'est Radio-Can qui avait fait un reportage là-dessus, qui détectait des MZ catchers aussi autour d'Ottawa, que justement des fausses tours cellulaires, tout cet univers de cette chose-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de renseignements sensibles qui circulent là, dans cette zone-là. Fait que c'est sûr que quiconque était intéressé à intercepter des communications, les Chinois en premier, puis un peu comme tu mentionnais, la Huawei il nous a amené à un peu de méfiance. L'escalade des tensions avec la Chine, là, justement l'arrestation d'une très haute placée chez Huawei à Vancouver et l'extraction de tout ça, puis justement les derniers développements nous laissent pas vraiment une place où on peut être à ce stade-ci confiant que Huawei est sans danger pour nous, puisque le pays dans lequel ça a origine, puis pour reprendre justement la première nouvelle, est un peu contre les valeurs occidentales, est un peu en guerre. d'informations face à l'Occident. Donc, c'est une zone qui est un peu particulière. Puis je ne sais pas pourquoi TELUS aurait fait ce genre de manœuvre-là. C'est vraiment étrange.
Ah, je mettrais même pas d'hypothèse là-dessus. Je ne le sais pas. Je ne sais pas comment TELUS s'est ramassé avec cet équipement-là. Il y a certainement des avantages commerciaux, peut-être, de l'argent d'impliquer. De l'échange de technologie, par exemple, ça se peut. Huawei, je doute pas de leur technologie. Là, ils ont une très bonne technologie. Ils ont le bras, ils grattent large, là. Ils font toutes sortes de choses, là, Huawei, là. Mais bon, pourquoi TELUS, je ne sais pas.
Je peux pas. Peut-être qu'en plus, là, d'autres choses, on a vu chez TELUS, mais peut-être chez Bell, Rogers, Vidéotron, peut-être aussi, on va trouver des informations comme ça qui vont fuiter dans les prochains jours ou semaines là, pour justement ce genre de choses-là. Fait que là, c'est pas juste spécifiquement contre TELUS, mais cette nouvelle-là est quand même préoccupante.
Oui, effectivement. Effectivement.
Puis ça nous amène à la dernière nouvelle. Puis celle-là encore, on revient encore avec une nouvelle où les législateurs, dans ce que c'est américain, veulent inclure dans une loi une façon que tout chiffrement qui passe en sol américain, j'imagine dans ce cas-ci, soit brisable dans un cas où il y aurait un subpoena, un mandat d'action, un mandat qui autoriserait l'écoute des communications et de casser le chiffrement. Encore une fois, ça revient toujours, je comprends difficilement pourquoi on en parle encore, puisque tous les experts, tout parti confondu, toute allégeance confondue, disent que c'est vraiment un très, très mauvais plan. En plus, on est dans un univers où on est entré, dans un univers avec tout le télétravail, tout ce qui se passe. On remet en question justement que Zoom n'utilise pas de chiffrement bout en bout, qu'on va favoriser des équipements ou des logiciels de visioconférence qui sont chiffrement bout en bout. Là, on a des lois sur le côté qui disent « Ouais, mais je veux briser quand même ton chiffrement. » On est comme dans un drôle de discours, un drôle de zone, puis je ne sais pas encore quand. Je ne sais pas quoi faire, en quoi encore en penser, puis à quel point ces gens-là, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais on ne peut pas, ça n'existe juste pas leurs idées.
Écoute, un pays exposé comme les États-Unis, j'imagine que la menace terroriste plane énormément sur ce type de pays exposé-là. T'as raison parce que tu viens de briser la chaîne d'approvisionnement puis l'idée du chiffrement. Comme tu dis, donc on veut dicter à notre population d'être prudent. Mais là, on lui dit soyez prudent. Mais nous autres, faites-vous-en pas. On va avoir une loi. Si jamais, on va pouvoir s'ingérer dans votre prudence. Tu sais, Marie, faut que les idées suivent les babines aussi, hein. Tu sais, permettez-moi l'expression, là.
Entièrement d'accord.
À quoi servent les services de renseignement? Si on commence à passer des lois, les services de renseignement, t'en as plus besoin. Tu dis, garde, on n'en a pas besoin. Quand on va en avoir de besoin, on va la télécharger, la com. On va briser le chiffrement. On va l'écouter. C'est à ça que ça sert, un service de renseignement. Que ça soit civil, que ça soit militaire, c'est à ça que ça sert, là.
Ah, entre autres, mais moi, ce qui me fascine à ce cas-ci, c'est toujours de balancer entre la protection des citoyens par la police, par les différents organes de protection qu'on a en termes de société civile et la capacité de mener des enquêtes. Mais tu sais, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi les corps de police veulent un raccourci comme celui-là. Donc, si on remonte 50 ans, il y avait pas de chiffrement, puis il n'y avait pas de technologie magique, fait qu'ils devaient faire du vrai travail de renseignement, un peu comme ce que tu mentionnes, ils devaient vraiment aller s'infiltrer les réseaux, trouver l'information, mener des choses de confiance, tout ça existait, puis bon, j'ai un peu une difficulté à comprendre pourquoi on veut prendre des raccourcis de cette nature-là qui ont des impacts très importants au niveau social, puis au niveau du commerce, au niveau de même la protection des agents infiltrés. Les Américains, c'est un côté, ils disent ce genre de choses-là, mais ils ont des agents infiltrés partout dans le monde. Est-ce qu'on est prêt à réduire la qualité de la sécurité et de la protection des informations que ces agents infiltrés-là transmettent aux États-Unis. C'est comme à courte vue, en tout cas, bref. Je ne peux qu'être en désaccord avec ce genre d'initiative-là, puis je suis fasciné à quel point on en revient encore toujours à cette espèce. Je veux que ça soit facile, je ne veux pas vraiment travailler, c'est forçant de travailler pour de vrai, puis infiltrer. Donc, donnez-moi un raccourci pour ne pas infiltrer.
Ça me fait penser un petit peu au Patriot Act qui devait être en force au moment où il y a eu des attaques, ça je peux comprendre, là. Il y avait le Patriot Act qui était très contraignant, très intrusif. Il n'a pas été reconduit dernièrement, le Patriot Act. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est parce que le Patriot Act n'a pas été reconduit qu'on s'en vient avec une nouvelle option? Parce que sachez que oui, les gens vont chiffrer davantage. Là, avec une loi comme ça, les gens... Ils vont blinder leur chiffrage ou ils vont trouver un autre moyen.
C'est ça, ouais, c'est l'autre passe. Puis ça, pour avoir lu, parce que ça, je diverge, mais ça a un lien. Les parents qui surespionnent leurs enfants sur leurs appareils technologiques en lisant les conversations qu'ils ont, en regardant ce qu'ils font, tout ça, ce que ça génère chez les enfants, c'est qu'ils vont commencer à parler dans un langage codé. Ils vont continuer à masquer l'information, mais à l'insu des parents. Fait que ça ne sert à rien d'appliquer une mesure de contrôle extrême. Puis là, on parle dans une famille avec des parents et des enfants. Fait que les enfants vont trouver un moyen de flouer les parents. Pareil, ils l'ont toujours fait. J'ai été un enfant, un ado. J'ai toujours trouvé un moyen de cacher une partie de l'information. Puis quand je suis devenu un parent, je me suis rendu compte que mes parents voyaient quand même une partie des choses que je disais. Même si je me sentais très, très brillant dans ma façon de masquer les choses. Comme adulte, puis comme parent, finalement, pas toutes, mais une partie était quand même pas si brillante que ça. Fait que cette zone-là, au niveau du renseignement, c'est la même chose, parce que, tu sais, ils vont être, fait que si on commence à, enlever un moyen de chiffrement, ben, ils vont s'en inventer un autre, ils vont parler en langage codé, ils vont parler d'autres façons, ils vont parler d'autres choses, qui fait que finalement, ils vont continuer à masquer l'information pareil. Puis, personnellement, je trouve que c'est plus payant d'investir dans le renseignement, un peu comme tu mentionnais. Et justement, de déduire, comme puis maintenant, comme parent, je me rends compte qu'une partie des choses que j'essaie de cacher était complètement farfelue, puis je me vivais dans mes illusions. En tant qu'entité de renseignement au niveau étatique, sont capables aussi de détecter un certain nombre de choses, mais il faut investir le temps, il faut investir la compréhension, puis on revient encore à l'humain. On est toujours à l'humain.
Puis c'est bien ça, de la façon dont tu le dis, investir dans le renseignement, investir dans les mécanismes, les compétences de nos agents de renseignement. Pensez pas là, que tout d'un coup, avec votre loi, pouf, vous allez avoir accès à tout. Oh, oui, vous allez avoir accès à tout, mais ça va être une fenêtre de temps limitée. Parce qu'ensuite de ça, au coût d'un effort très raisonnable, les gens que vous espionnez vont trouver un meilleur moyen. Puis là, vos compétences vont être diminuées là, si vous investissez pas dans les compétences du renseignement. Mais bon, c'est un petit servicieux. On parle puis on divague, là. Mais l'équipe adverse va trouver un autre moyen.
Ah, c'est sûr qu'on va trouver un autre moyen. C'est juste de voir à quel point les adolescents essaient de trouver de tous les moyens possibles justement pour réussir à se sauver de l'hégémonie des parents qui gâchent leur vie. Donc, juste ça. Puis là, on parle dans un contexte avec des gens qui n'ont pas beaucoup de vues sur le monde. Imaginez maintenant des groupes criminels ou des groupes terroristes qui ont des capacités, des moyens financiers beaucoup plus importants. Si on n'investit pas correctement dans le renseignement, dans la compréhension, dans l'étude de ces comportements-là, le raccourci de la technologie ne va être que de courte durée, puis on va retourner à la même case dans 1, 2, 3 ans après le passage de cette loi-là. Puis en plus que cette loi-là va avoir brisé l'usage légitime de cette technologie-là en plus. Fait qu'on se trouve avec un double problème dans ces circonstances qui est très désolant comme regard sur les choses. Bref.
Eh oui.
Oui, un petit mouvement de main à Vincent.
Eh oui.
Et oui. Donc, ça complète les nouvelles qu'on a pour cette semaine. Là, j'en profite à la fin de l'épisode parce que si vous l'écoutez jusqu'à la fin, vous allez le savoir. Je m'excuse un peu du manque de temps que j'ai eu pour diffuser les épisodes. Il y en a 4 ou 5 en retard qui vont être diffusés très prochainement, dont celui-ci. On va probablement changer de cycle d'enregistrement pour espèce accommoder un peu le modèle de vie dans lequel on vit, de confinement et ainsi de suite. Vincent disait qu'il avait hâte de retourner au bureau, partiellement moi aussi. Mais nos vies en tant que télétravail, je pense que ça va devenir maintenant permanent. Oui, parce qu'on ne s'en sort pas. Moi, le premier, ben, je suis très content que le télétravail soit maintenant rendu une norme. Puis je pense que je n'accepterai plus jamais aucun contrat qui n'inclura pas du télétravail. Par contre, dans certaines doses, il y a quand même besoin d'un certain nombre de contacts humains. Entre autres, avec mon client principal auquel le contact face-à-face est utile pour comprendre et faire avancer des dossiers plus stratégiques, par exemple. Mais ça ne sera probablement pas beaucoup plus que 2 jours semaine.
Ah, je pense que ça sera un bon compromis, ça. Une semaine de 3 jours au bureau, 2 jours à maison, puis une semaine, 2 jours au bureau, 3 jours à maison, puis ensuite de ça, les semaines d'exception. Les semaines d'exception où il y a des urgences, etc., etc., des enjeux, etc. Là. Je pense que ce serait un petit modèle de rotation qui serait pas pire, ça.
Alors, je pense qu'on s'en va vers ça un peu pour faire un peu un lien avec ce qu'on a que j'ai dit dans les chaînes LASPOC au début. On est en train de rebasculer vers un moment de confinement, malheureusement pour bien des gens, parce que mettons, négligence ou le manque d'application des règles, juste le port du masque et le lavage de mains, sont les deux mesures clés, sont pas respectées. Fait que les cas ont déjà recommencé à monter au Québec. J'espère que c'est juste une petite bulle puis ça va redescendre. Si ça continue, j'ai bien l'impression qu'on va se ramasser comme ce que les Américains sont en train de vivre, c'est-à-dire une augmentation rapide des cas. Puis dans leur cas, c'est encore pire parce que là, il y a un message au niveau gouvernemental qui est opposé. Fait que c'est très difficile pour les gens de s'y retrouver, mais dans la mesure où on porte le masque, puis distanciation, lavage de main, je pense qu'on va être capable de retourner à une vie semi-normale, mais ça va être un nouveau normal.
Ouais. Eh oui. Nous autres, on est très conscients de ça, mais malheureusement, nos enfants, comme j'ai dit à mes filles, j'ai de la peine pour eux autres qui aient à vivre ça pendant leur enfance, justement. Mais bon.
Ça rend ça très compliqué. Oui, puis oui, parce que là, tes enfants sont encore un peu jeunes, les miens sont plus à l'adolescence. L'adolescence, c'est justement le moment où on est confronté à faire des mauvais plans. On essaie de tromper nos parents, de faire des plans cachés pour les parents s'en rendre compte, puis une espèce d'aspect de socialisation qui est très important de lequel on apprend. Cette strate-là va manquer ce moment-là qui a forgé toutes les générations qui ont précédé, incluant la nôtre. Quand on a eu nos plans foireux, on a fait nos affaires d'adolescents. Maintenant, ça va être beaucoup plus difficile pour eux maintenant d'explorer le monde sous les... C'est la façon standard qu'on explorait le monde en tant qu'adolescent jusqu'à tout récemment.
C'est une belle période, ça, 12 à 16 ans. On est juste des cons à cet âge-là. C'est tout.
Ouais, on est jusqu'à 18, pas 12. Pas 16, excuse.
Toi, tu dirais 12 à 18? Bon, 12 à 18 ans, on est cons. Tu sais, je cherchais pas d'autres mots, là. On est cons, on explore, on essaye. On n'a pas de jugement. On sait que c'est un mauvais plan. Hey, on l'applique pareil. Puis ça forge notre caractère, justement.
Ça forge qui on est comme adulte, ça forge comment on est, puis justement, c'est ce contact-là. Fait que c'est plus difficile pour nos jeunes maintenant de pouvoir comment se définir dans ce genre d'univers-là. Là.
Bon, fait que sur ce, bon été tout le monde.
Sur ce, ouais, bon été, profitez-en. On va essayer d'enregistrer quand même sur d'autres format cet été pour quand même maintenir la cadence. J'essaie d'être un peu plus assidu. La faute est sur moi. Mais on va trouver des façons de continuer à maintenir le rythme. Bonne semaine sur ça. Si vous ne nous écoutez pas d'ici là.
C'est bon. Salut tout le monde.